France Inter, le 7-9.
Et à 7h45, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est une adolescente victime de cyberharcèlement.
Bonjour Mila.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Mila, depuis janvier 2020, tout le monde connaît votre prénom. Depuis la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux où vous aviez critiqué rudement l'islam. Il y a eu une deuxième vidéo au mois de novembre dernier. Et depuis, vous faites face à des torrents de haine sur les réseaux sociaux. Plus de 100 000 messages de menaces de viol, de menaces de mort ou de gens qui vous appellent à vous suicider. Plus de 100 000 messages de haine. Hier, le tribunal de Paris a prononcé des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis contre 11 personnes. 11 personnes accusées d'avoir participé au cyberharcèlement, au harcèlement en ligne contre vous. Un seul prévenu, je précise, a été relaxé. Qu'avez-vous ressenti à l'énoncé de ce verdict ? Est-ce que vous avez été soulagée ?
Disons que je m'étais attendue à bien pire, en fait. Je m'étais préparée au pire et même pas forcément pour... Voilà, j'étais pas du tout optimiste, alors que je suis quelqu'un qui l'est énormément de base.
Vous pensiez qu'ils allaient être acquittés tous ?
Honnêtement, oui, quand j'ai entendu d'abord la décision du procureur. J'ai beaucoup stressé ces derniers temps avant le procès, c'est pour ça que j'ai essayé de pas y penser. Dès qu'on m'en parlait, j'esquivais.
Et au moment où donc le verdict est celui-là, qui sont des peines assez exemplaires, puisqu'ils ont quasiment suivi les réquisitions du procureur.
Je suis soulagée. Je vais pas jusqu'à dire que je suis satisfaite parce que la satisfaction pour moi ça va bien après ça. Ça va ce qui va dans le bruit qui va se passer par la suite. Qu'est-ce que je vais devenir? Je veux que ça fasse avancer les choses et c'est qu'une étape parmi tant d'autres, mais c'est déjà un grand pas vers l'avant. Et oui, je suis quand même très contente.
Vous avez appris quelque chose dans ce procès?
J'ai appris à vraiment à savoir se maîtriser parce que ça s'apprend pas avec quelques audiences, etc. Mais des moments où on a envie de bondir. À quel point il faut être attentif, savoir faire une réflexion qui doit dépasser, je veux dire, qui doit s'imposer sur les émotions.
Vous qui avez écrit dans votre livre « Je suis abandonnée par une nation fragile et lâche », vous êtes rassurée sur la justice de notre pays? Elle n'a pas été, sur le coup, fragile et lâche?
Je me suis sentie respectée. Je me suis sentie, soutenue quelque part en tant que victime. Et j'ai senti que la justice a quand même été là, a tapé là où il faut, que les choses ont été adaptées.
Pendant le procès, le représentant du parquet a dit aux prévenus « Les déclarer coupables, ce sera dire à ces jeunes gens que Mila n'est pas un punching ball sur laquelle on peut se défouler à loisir et que les réseaux sociaux ne sont pas un Far West sans règles. » Est-ce que vous pensez que ces peines exemplaires de prison avec sursis pour ceux qui vous ont menacé, ça pourra dissuader d'autres personnes de le faire à nouveau, demain après-demain, ou au moins ça les ferait réfléchir?
Je pense que oui, ça fait réfléchir. Je vois beaucoup de commentaires aussi, hein, même avant qu'il y ait eu le verdict, j'ai vu des commentaires de personnes qui disaient « Bon, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de dire des choses pas cool, assez graves, mais je vais rien dire parce que j'ai pas envie de me retrouver devant un tribunal. » Bah dis rien, bah ta gueule, enfin, tant mieux.
Donc la menace peut marcher, donc ce procès peut être exemplaire, peut faire changer les choses.
Quand je dis la peur change de camp, oui, et maintenant... Je me renforce dans cette idée et il faut qu'on le fasse tous. Et c'est pour ça que...
Et ça vous donne de l'espoir.
Bien sûr, ça me donne de l'espoir. Et il n'y a pas que la justice qui doit être impliquée dans tous les cas. On doit tous être impliqués.
Parce que la plupart des prévenus étaient des jeunes sans histoire. Il y en a un qui voulait être ambulancier, un autre expert comptable. Je précise d'ailleurs que majoritairement, ils ne sont pas musulmans. C'était des athées ou des catholiques. C'est intéressant d'ailleurs de voir le profil des prévenus. Le président du tribunal pendant le procès, à un moment, a dit à l'un des prévenus « Mais quand vous lui dites « crève », vous vous rendez compte de ce que vous lui dites ? Vous comprenez que c'est une menace ?» Et il a répondu « Non, je ne comprends pas. » Vous avez senti que ces gens-là qui vous menaçaient de mort, qui vous appelaient à vous suicider dans des termes absolument atroces que je ne vais pas répéter là, ils se rendaient compte qu'ils jouaient un jeu dangereux ou c'était comme ça, c'est la règle des réseaux sociaux, on insulte, on s'en fout un peu ?
Pour moi, ils le savent. Après, c'est ma manière de voir les choses, ce n'est que mon avis, mais j'ai toujours beaucoup analysé les gens autour de moi et surtout les mauvais comportements. La plupart aussi des prévenus, je précise, hein, je fais une parenthèse, ont nié quand on leur a posé la question « Étiez-vous au courant que Mila était harcelée massivement ?» Ils ont tous dit non. Ils le savent très bien. Et en fait, qu'ils posent le mot « harcèlement, c'est mal » dessus, oui ou non, ces gens-là savent pertinemment qu'ils s'acharnent en meute sur moi et ça leur fait plaisir. Et rien que quand des personnes, entre toutes les personnes aussi qui en ont après moi, qui ne s'expriment pas et qui ne me harcèlent pas publiquement, quand ils voient ces messages, ils aiment voir ça. Et c'est pour ça que moi, j'essaie d'en supprimer un maximum. Donc aussi, les profils, évidemment m'ont interpellée, mais dans tous les cas, quelque chose que j'ai toujours pensé, c'est que il s'agit pas forcément d'être dans une certaine catégorie ou communauté ou religion ou peu importe pour être mal éduqué et pour être mauvais, quoi.
Pour comprendre ce que vous avez vécu depuis un an et demi, il faut lire « Je suis le prix de votre liberté », ce livre-là que vous avez publié chez Grasset et qui raconte, dans lequel vous racontez en détail mais sans plainte et sans complainte, vous racontez les rouages de la mécanique infernale qui s'est mise en place contre vous. Comment une lycéenne de 16 ans, parce que c'est l'âge que vous aviez il y a un an et demi, comment une lycéenne de 16 ans qui se rêvait chanteuse, qui adorait poster des petites vidéos et des blagues sur les réseaux sociaux, s'est retrouvée du jour au lendemain plongée dans un cauchemar qui l'a privée d'école, qui l'a privé de ses amis, qu'il a privé de sa liberté. Vous dites, ce livre, c'était le seul moyen de briser ma captivité. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire plusieurs choses. Globalement, j'ai été, quand je vivais encore chez mes parents, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en captivité. Déjà, je me sentais comme une bête de foire sur les réseaux sociaux, et en plus de ça, j'étais enfermée. Et puis, ce livre a brisé ma captivité. Tout simplement parce que je me confiais dans ce livre. D'ailleurs, je dis vous, en fait. Je m'adresse à mes lecteurs. Je m'adresse au livre, ou peu importe, en fait. Je me confiais sur des choses très profondes que je ressens. J'ai pleuré en écrivant certaines pages. J'ai beau avoir quelques difficultés avec ma mémoire, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Et donc, je me suis confiée, et c'est ma parole qui se libère. Ma parole que j'ai jamais censurée, d'ailleurs.
Vous vous êtes pas auto-censurée sur rien?
Non, et je m'auto-censure pas, d'ailleurs, sur les réseaux et dans la vraie vie.
Vous vivez seule aujourd'hui dans un appartement, on dira pas où, dans quelle ville, dans quel endroit. Vous n'êtes plus scolarisée, vous faisiez des cours par correspondance. Là, vous avez 18 ans, est-ce que vous avez eu la force de réviser pour le bac?
Non. Non, déjà, je suis inscrite nulle part pour le bac, donc bac de quoi? Ni aucune orientation filière là-dessus. Je ne suis pas abandonnée, hein. Mais je suis perdue. Je me pose même pas la question de est-ce que je l'aurais eu. Est-ce que honnêtement, ce qui est scolaire, je m'en suis tellement détachée et sans même me rendre compte que non, je suis totalement à côté pour le bac.
Et vos parents, vous avez eu un mot pour vos parents hier à la sortie du tribunal. Vous avez dit « je pense à eux d'abord, qui vivent ce cauchemar alors qu'ils n'avaient rien demandé ». Vos parents, ils vivent comment aujourd'hui ce qui vous arrive ?
Comment mes parents le vivent ? Ils le vivent avec moi. Ils le vivent comme moi parce que n'importe quel parent dont l'enfant serait victime de choses pareilles ne pourrait que... avoir des difficultés à s'en remettre. Et d'ailleurs, c'est pas dans le passé, ça y est encore aujourd'hui. Et mes parents, c'est des combattants. Mes parents, c'est des personnes incroyablement fortes, parce qu'on parle de mon courage, mais on parle pas forcément de qui je le tiens et qui m'a donné tellement de leçons de courage depuis toujours, même bien avant ça. Donc mes parents, évidemment qu'ils en souffrent énormément. Ils ont plus la même vie, ils auront plus jamais la même vie aussi. Ça leur a été infligé, mais ils se battent avec moi.
Vous écrivez dans le livre, je ne vais pas m'excuser, je n'ai pas d'excuses à formuler, je devrais me sentir libre de faire usage de ma liberté d'expression dans le respect de la loi sans avoir peur de la violence des jeunes radicaux, je ne m'excuse pas et je ne m'excuserai jamais. C'est-à-dire que ceux qui se sentent blessés par ce que vous avez dit sur l'islam, ceux qui se sentent offensés, au fond vous dites c'est leur problème, c'est pas le mien.
Parce qu'ils sont offensés justement, et oui c'est leur problème. Déjà... je vais même pas faire l'arbitre à dire qui doit être offensé, qui ne doit pas l'être, parce que justement, c'est pas mon problème. Et personne n'a été blessé, personne n'a pris un gros paquet de mouchoirs pour pleurer après cette vidéo. C'est de l'acharnement, tout simplement. Et même si j'aurais pu dire les mêmes choses sans vulgarité, parce que les gens utilisent souvent ça comme prétexte.
Parce que c'est vrai qu'il y a des mots très grossiers que vous avez prononcés.
Oui, oui, mais même si je les avais pas prononcés, je serais ici en ce moment même.
Parce que vous avez insulté l'islam. Voilà,
parce que j'ai insulté l'islam.
Vous écrivez « Les réseaux sociaux abrutissent ma génération ». Et pourtant, vous continuez sur les réseaux sociaux. Vous ne voulez pas lâcher Instagram, Twitter, TikTok. Vous continuez.
Moi, les réseaux sociaux, je les garde déjà parce que j'aime toujours autant partager, même si c'est difficile.
Donc il est hors de question que vous sortiez des réseaux, quoi.
Bien sûr,
même
hors
si
de question.
Ça abrutit.
Déjà, j'en ai pas envie et j'ai pas à me priver de ça, quoi.
Vous écrivez enfin « Je devenais un symbole aux yeux de tous. J'étais dépassée ». C'est un symbole de quoi, si vous deviez mettre un mot ?
Je dirais que je suis un symbole de l'innocence. Je parle pas de « j'ai rien fait », de l'innocence, de là où on ne voit pas le mal parce qu'il n'y en a pas. Je m'écarte de ça.
Le symbole de l'innocence.
Le symbole de l'innocence.
Pour terminer, vous commencez votre livre par cette phrase glaçante. Quand vous lirez ces lignes, j'ignore si je serai encore vivante. On a lu ces lignes, vous êtes encore là, Mila. Je sais que c'est difficile pour vous d'envisager l'avenir, mais dans 5 ans, vous serez quoi ? Chanteuse comme vous vouliez être ? Influenceuse ?
Ce que je veux dans 5 ans, moi je sais très bien ce que je veux. C'est juste mon but dans la vie. Je voudrais une vie de couple, dans une maison assez originale ou un habitat avec plein de choses pour s'amuser, en fait, parce que j'ai toujours ce côté très enfantin. Et je veux beaucoup d'animaux. Parce que mon plus grand rêve, surtout avant ça, c'est d'avoir un chien, ce que je ne peux pas me permettre avec la situation. Je veux avoir un chien.
À cause des gardes de sécurité qui sont avec vous ?
À cause du fait qu'un chien, il faut le sortir à des heures précises, assez fréquemment dans la journée, à peu près aux mêmes endroits. Et pour des raisons de sécurité, je ne peux pas. Et j'attendais d'être majeure que pour ça, pour accueillir un animal, des petits animaux. Parce que j'adore ça, ce lien que j'ai avec et que j'ai toujours eu. Ce que je veux être dans 5 ans, c'est tout simplement d'être épanouie. Évidemment, oui, je rêve d'avoir une carrière dans la musique. Et puis, je veux avoir une famille. Voilà, quoi. J'ai envie de vivre.
Libre.
Je veux être libre.
On vous l'espère. Je suis le prix de votre liberté, c'est votre livre. C'est chez Grasset. Merci beaucoup, Mila, d'avoir été avec nous. Merci.
Merci à vous.
Et merci Léa, à tout à l'heure, 8h20. Merci également à David Leprince pour la réalisation de cet entretien.